Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser continue sa réflexion ce soir sur la violence en essayant de poser un diagnostic sur notre monde en compagnie ce soir d'Amit Bozarslan qui a signé un livre à la CNRS édition intitulé « Crise, violence et décivilisation, essai sur les angles morts de la cité ». Si notre temps est gagné par l'accélération, dirait Armut Rosa, ou par le présentisme, dirait François Hartog, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à se projeter dans le temps, peut-être doit-elle chercher son oxygène temporel dans l'autre direction, c'est-à-dire du côté de l'histoire. C'est le pari qu'a fait Amit Bozarslan, qui a trouvé ses poumons théoriques, pourrait-on dire, chez Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, ou encore chez Ibn Khaldoun, le célèbre auteur médiéval du Moyen-Âge arabe, qui est en quelque sorte le père de l'anthropologie historique. Bonsoir Amit Bozarslan.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous avez beaucoup écrit, notamment sur la violence et le terrorisme déjà, et vous avez publié également, il y a 6 ans, un livre déjà sur Ibn Khaldoun, « Le luxe et la violence, domination et contestation chez Ibn Khaldoun ». Est-ce que vous pourriez, Amit Bozarslan, nous présenter un peu Ibn Khaldoun pour nos auditeurs qui sont peut-être pas tous familiers de sa pensée ?
Ibn Khaldoun, homme de 14e siècle, il est mort en 1406. Homme qui a servi plusieurs rois, plusieurs princes, qui a trahi aussi plusieurs princes. La dernière illustration d'une grande dynastie d'intellectuels qui est mort au Caire. Sa famille a été victime d'un naufrage.
Et il était juge. Il était juge au Caire.
Il était juge aussi. Il était juge au Caire. Et c'était aussi un homme de la peste, un théoricien de la peste, parce qu'il a témoigné effectivement, comme Thucydide d'ailleurs, de la disparition, de la quasi-disparition de la civilisation par la contamination. Ça résonne un peu avec nos jours.
Oui, oui, c'est ça. Alors je ne veux faire aucun rapprochement qui nous angoisserait encore un peu plus, Amit Bozarslan, mais ce qu'il y a de commun aussi bien à Thucydide qu'à Ibn Khaldoun, et on pourrait ajouter Camus, c'est d'avoir fait résonner politiquement et on pourrait dire d'un point de vue civilisationnel, la peste.
La peste, effectivement, parce que la peste, ça renvoie à la destruction de la société, à la destruction de la civilisation. Chez Ibn Khaldoun, la société, l'État, le pouvoir et la civilisation se construisent au cours d'un même processus, mais leur destruction a lieu également au cours d'un même processus. Et chez Ibn Khaldoun, mais Thucydide en parle aussi, Camus aussi, la fin de la civilisation n'est absolument pas une fatalité. C'est tout simplement parce que le confort dans lequel l'homme se trouve, l'incapacité de se penser dans le temps, l'incapacité de se penser à partir de ses origines, l'incapacité de se projeter dans l'avenir, qui provoque aussi la chute de la civilisation.
Alors, on va en parler de la chute de la civilisation, Amit Bozarslan, qui est bien sûr notre thème ce soir, thème un peu angoissant. Mais avant de parler de son déclin, parlons de la civilisation elle-même. Parce que ce qui est intéressant dans votre démarche d'aller chercher chez un auteur qui n'est pas occidental et qui réfléchit à partir des lumières arabes, on pourrait dire.
À partir des lumières arabes et en quelque sorte en anticipant sur les lumières occidentales.
Oui, c'est ça.
C'est exactement. Pas un homme qui prend la critique de la société, la critique du pouvoir, la critique de la religion, loin de là. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui saisit que la civilisation ne peut pas être nationale ni religieuse. Il ne peut pas y avoir pour lui une civilisation arabe ou une civilisation islamique, ne serait-ce que parce que la civilisation est pour lui est une condition humaine universelle. La civilisation est l'objectif que toute société cherche.
Mais, oui, à laquelle elle ne peut arriver que dans des conditions quand même assez particulières.
Il ne peut arriver que dans des conditions particulières parce qu'il faudrait commencer par le rustique, il faut commencer par ce qui est élémentaire. La civilisation n'est pas donnée en tant que bloc. Donc, arriver à la civilisation, c'est une expérience qui commence par la barbarie et ce n'est que la barbarie qui, en s'institutionnalisant, se transforme en civilisation. Et Ibn Khaldoun est très clair sur un point, c'est que la civilisation est apporte le confort. La civilisation signifie la confiance. Je pense qu'effectivement, s'il faudrait trouver un synonyme pour la civilisation, ce sera la confiance. La confiance dans le temps, ça veut dire que le temps passé a eu un sens et le temps à venir aura un sens. La confiance dans l'espace, ça veut dire que la mobilité est permise, je peux maîtriser cette mobilité. La confiance dans les institutions, cela signifie qu'effectivement, je peux sortir dans la rue sans être armé parce que les institutions me protègent. Donc, sans cette confiance, la civilisation n'existe pas. Et pour Ibn Khaldun, quand la civilisation décline, c'est aussi la fin de la confiance.
C'est ça. Alors, si on pense à notre temps, si on fait un raccourci temporel, aujourd'hui, c'est souvent venu au cours de nos soirées, la question de la confiance est une question absolument majeure de notre temps, Hamid Bouzarslan.
C'est une question absolument majeure. Et je dirais, on a vu quand même la montée en puissance de l'État islamique. La montée en puissance de l'État islamique en 2014, la prise de la ville de Mossoul, 1,3 million habitants par quelques centaines de militants, signifie qu'effectivement les hommes, les Irakiens n'avaient plus aucune confiance dans leur propre système, que les mécanismes étatiques qui existaient en Mossoul n'avaient plus confiance en eux-mêmes. Et aujourd'hui, on voit aussi la question qui se pose, y compris dans des sociétés démocratiques, c'est la question de la confiance qui revient constamment. Est-ce qu'on peut faire confiance dans le système de la santé, en éducation, au système monétaire international? La question de la confiance est posée constamment.
Parce que en face, il y a des gens, des hommes, des garçons, on pourrait dire, qui ont une confiance inébranlable dans leur chef. Et c'est aussi pensé par Ibn Khaldun. La sabiyya, c'est-à-dire cette confiance aveugle.
Et cette confiance aveugle pour Ibn Khaldun, pour créer le pouvoir, il faudrait en quelque sorte deux ressources. Une ressource infrapolitique, c'est la asabiyya, c'est la solidarité d'un groupe égalitaire mais déjà différencié. Un groupe égalitaire mais qui dispose déjà d'un primus inter pares et qui se projette dans l'avenir dans une certaine tension. Sans cette solidarité de base pour Ibn Khaldun, il ne peut pas y avoir d'expérience étatique. Et cette mobilisation de base, cette solidarité de base, finalement, est infrapolitique. Mais pour Ibn Khaldun, il faudrait aussi une deuxième ressource. Et cette ressource est suprapolitique, c'est l'idéologie. Une idéologie universelle. Ibn Khaldun appelle cela la dawa. Le terme est islamique. Ça veut dire effectivement propager l'appel à reconnaître l'unicité de Dieu et la prophétie de Mohammed, du prophète. Mais en même temps, on sait que la dawa peut être aussi toute idéologie, pas nécessairement une idéologie islamique. Et c'est la combinaison et la radicalisation de ces deux ressources, infrapolitiques et suprapolitiques, qui permettent de construire chez Ibn Khaldun ce qu'on appelle le pouvoir.
Alors, on pourrait inverser la proposition de Ibn Khaldun, Hamid Bouzarslan, et dire, aujourd'hui, on assiste exactement à ces deux choses contraires, c'est-à-dire une perte de la confiance et de la solidarité, de cette solidarité primaire, pourrait-on dire, parmi les citoyens, et une perte d'horizon universel, universaliste, une perte d'un idéal très lointain, ce qui fragilise la cité démocratique.
Ce qui fragilise, parce que cela est tout à fait conforme au modèle khaldunien. Cela fragilise la cité parce que du coup, les habitants de la cité ne se sentent pas responsables de l'avenir de la cité. La citoyenneté devient une sorte d'exercice absolument conformiste, le respect des rituels, la confiance est encore là, mais en même temps, personne ne se sent individuellement ou en tant que groupe responsable de l'avenir, de l'ancrage de cette civilisation dans la durée.
Parce qu'ils ont perdu aussi le souvenir de la violence. Vous avez eu cette expression qui est assez forte en disant qu'est-ce que c'est que la civilisation? C'est quand la barbarie s'est institutionnalisée. Ça veut dire qu'il y a un continuum entre la barbarie et la civilisation.
Il y a absolument un continuum. Vous avez tout à fait raison, Antoine Garapon, sur cela. Et je pense que quand on lit Weber, Max Weber ne dit pas uniquement que l'État, c'est le monopole réussi des instruments de coercition. Max Weber explique en détail qu'à ses origines, ce qu'on appelle l'État, c'est une mafia, mais une mafia qui graduellement s'institutionnalise et qui finit par se nier comme mafia. À la base de la civilisation, pour Ibn Khaldoun, cela est très clair aussi. Il y a un groupe qui est capable d'utiliser la violence. Cette violence ne peut pas se limiter à une quelconque contrainte légale, mais en s'institutionnalisant, ça veut dire en devenant État, cette violence finit par se nier en tant que violence, devient ordre étatique, qui dit ordre étatique signifie coercition, mais signifie aussi des rituels, des règles, etc. Et une violence qui se rappellerait en tant que violence, une idéologie qui se rappellerait en tant qu'idéologie radicale ne pourrait jamais déboucher sur la construction d'un État.
C'est ça. Et alors, une civilisation qui se caractérise pour Ibn Khaldoun par l'adoucissement des mœurs, par la, et c'est intéressant, par le perfectionnement des métiers. Très important. Absolument. Les métiers chez Ibn Khaldoun, sur l'essence des sciences, de l'architecture, de la médecine, etc. Et dans ce sens-là, il ne parlait pas, bien sûr, des Lumières occidentales, il parlait du monde arabe, mais c'est ce qui s'est produit pendant ces deux derniers siècles en Occident.
Absolument. Pour Ibn Khaldoun, la civilisation, c'est le luxe. Le luxe n'exclut pas
le
la violence.
Le surplus, on pourrait dire.
Ou le surplus. Oui. Le surplus, le terme de luxe, il l'utilise.
Ah oui.
Ça veut dire qu'on est au-delà de surplus. Et toute société doit produire de surplus. Mais ce surplus doit être investi quelque part. On investit surplus en quoi? En guerre. La guerre coûte cher. Mais aussi en orangers. Des orangers qui ne donnent pas des oranges. Des orangers dont l'objectif, c'est tout simplement d'orner nos villes et nos trottoirs. Mmh. Et cela coûte également cher. Et Ibn Khaldoun montre que cela est nécessaire pour l'existence de la civilisation. Georges Bataille aurait appelé cela la part maudite. Mais une fois qu'on a produit cette part maudite, après, l'État devient de plus en plus gourmand. Le prince devient de plus en plus gourmand. Essaye de multiplier ses ressources puisque la différenciation interne coûte cher, le mercenariat coûte cher puisque l'État se nie en tant que violence, mais a besoin quand même des forces de la violence. Cette force de la violence, il faut les acheter quelque part, il faut les payer. Ces forces de la violence s'autonomisent et donc du coup, ce qui fait que la civilisation existe finit par aussi l'éroder de l'intérieur. La civilisation coûte de plus en plus cher et plus elle coûte, plus elle se mine de l'intérieur.
C'est ça. Mais alors, le paradoxe, Hamid Mozarslan, c'est que, et c'est un paradoxe qui, pour moi, est toujours irrésolu, c'est que cette Europe des Lumières va se construire et va connaître l'essor que l'on sait, la révolution industrielle, bref, et même la résolution politique de l'affrontement de classe. Mais elle se termine aussi dans le sang, dans deux guerres absolument épouvantables et qui restent une énigme. Comment cette civilisation a pu produire autant de barbarie sur le champ de bataille et au-delà d'ailleurs, si on pense au camp. Comment est-ce que vous résolvez cette énigme?
Je pense qu'on trouve quelques éléments d'explication déjà chez Ibn Khaldoun, parce qu'effectivement on pense qu'Ibn Khaldoun est un historien un théoricien de l'histoire cyclique, ça veut dire qu'effectivement de manière tout à fait aristotélicienne que la civilisation naît, se grandit et par la suite connaît une chute, mais Ibn Khaldoun explique aussi qu'il y a un rapport entre l'éros et le thanatos. Il n'utilise pas ces termes-là.
Oui. Mais ça c'est Freud qui les utilise.
C'est Freud qui, mais en anticipation, en quelque sorte, sur Freud, il montre combien, à un moment donné, les passions peuvent l'emporter. Il montre combien, à un moment donné, la faiblesse même de la cité peut la livrer à des forces qui lui sont extérieures, qui sont des forces de barbarie, mais dans ce cas-là, ce sont des forces de barbarie non pas rustiques, mais des forces de barbarie qui ont pour fonction finalement de faire régner l'ordre de Behemoth. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est Freud.
Oui. Je pense qu'effectivement... Alors, justement, Freud, parlons-en, parce que Freud nous dit dans Eros et Civilisation, il dit quelque chose, je confonds avec le livre de Marcus,
Le malaise dans la civilisation.
Le malaise dans la civilisation, merci de rectifier. Il dit quelque chose de très important, et qui, là aussi, est une clé pour nous comprendre aujourd'hui. Il dit, il n'y a de civilisation que s'il y a une inhibition des pulsions violentes, de façon à ce qu'on garde le meilleur pour les autres et qui va permettre le mécanisme de sublimation. Et donc, cette inhibition. Je suis frappé, Hamid Bezarslan, aujourd'hui, dans le débat politique, d'ailleurs, notre débat politique en France, de voir la délectation avec laquelle on dit une droite décomplexée, on va parler sans embâge, on va pas se mentir, et sous-entendu, on va lever toutes ces inhibitions. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour la civilisation.
Non, c'est pas une bonne nouvelle du tout, Et je crois que le 19e, le 20e siècle l'avait déjà montré. Je pense que l'histoire des révolutions, à sa manière, le montre aussi. Et l'histoire des guerres le montre aussi. Et c'est vrai que quand on regarde l'Europe d'après la guerre de 30 ans, donc 1618-1648, ça, c'est l'Europe de la Westphalie. L'Europe de la Westphalie n'est pas nécessairement une Europe de la paix.
Mais c'est non, une c'est Europe, de la guerre
voilà,
organisée.
Voilà, c'est une guerre organisée. C'est une nouvelle économie de dynamique, en quelque sorte, d'Eros et de Thanatos. Le prince a l'obligation de pacifier son espace et en même temps, le prince a le droit de faire la guerre à ses frontières. Et je crois qu'effectivement, ce qui s'est passé au 19e siècle et au 20e siècle, cette distinction qui était censée éternelle entre l'interne et l'externe, entre la phase de la mobilisation et la phase de démobilisation ne pouvait plus tenir. La notion du prince n'existait plus puisqu'effectivement, avec l'entrée en scène de la citoyenneté...
Et puis de la guerre démocratique.
Et la guerre démocratique, ça veut dire qu'effectivement, la guerre devient l'affaire de tous puisqu'effectivement, l'État-nation se construit sur la base d'un contrat, mais en même temps, un contrat qui inclut aussi un contrat de sang. Et l'État-nation, c'est pas uniquement l'école, c'est aussi l'armée. Ça veut dire qu'on demande aux citoyens mâles de donner leur sang, mais en contrepartie, effectivement, on sait que ces citoyens-là peuvent aussi intervenir, exiger. Et je crois qu'effectivement, ce risque que finalement, l'histoire peut être ne pas l'histoire des luttes des classes, mais l'histoire des luttes des nations, est très troublante pour la mouvance socialiste. Engels, dans sa préface à un texte à la lutte des classes de Marx en 1895, dit deux choses. D'une, on s'est totalement trompé avec Marx, parce que 1848 n'a pas porté les fruits qu'on espérait. Et de deux, on a eu la guerre de 1870-1871 et il met en garde ses lecteurs et ses contemporains en disant que s'il y a une nouvelle guerre qui éclate en Europe, cela va avoir des conséquences absolument inestimables.
Ben c'est toute la réflexion d'un Stefan Zweig ou d'un Karl Kraus, je donnerai une citation bientôt, cette idée, puisque la civilisation, comme vous nous le disiez, Hamid Bezarslan, comme le disait Ibn Khaldoun, ça excède la cité, c'est un ensemble de cités, c'est un ensemble d'états, c'est une sphère, c'est un moment de l'histoire, eh bien, les guerres du XXe siècle, à commencer par celle de 70, mais surtout 14 et celle 39-45, eh bien, c'est la fin de la civilisation européenne, pourrait-on dire.
C'est l'effondrement de la civilisation européenne. Je pense qu'on le voit très clairement. On parle on évoque la notion de la lutte de la guerre civile européenne. Cette notion n'a pas du tout été suggérée par Ernest Nolte.
Non.
Voilà, ça a été suggéré déjà par Elia Halevi dès 1917-1918, qui est Elia Halevi. C'est un grand penseur, un philosophe, un sociologue français, qui est patriote, qui se porte volontaire pour participer à la guerre, mais en même temps, montre très clairement que non seulement la civilisation s'est effondrée à l'échelle continentale, en Europe, mais que la guerre va durer plusieurs décennies. Et de l'autre côté de l'Atlantique, de la Manche, vous avez Bertrand Russell, qui est socialiste, qui est engagé, et pour Bertrand Russell aussi, il est très clair qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou la Russie. Il s'agit d'une guerre civile européenne, l'Europe s'effondre.
Oui, alors c'est tout ça est bien pessimiste, mais si on pense à notre temps, je repense à cette phrase de Karl Kraus que vous rapportez dans la troisième nuit de Walpurgis, où il dit alentour, rien que stupeur, fascination exercée par le charme de l'idée de n'en avoir aucune. C'est-à-dire que ça, c'est vrai, ça montre la tentation nihiliste qui est toujours la nôtre aujourd'hui.
La tentation nihiliste qui est très très nette dans les années 1910-20. Ce n'est pas du tout par hasard que l'un des ouvrages importants sur cette période de Thomas Mann s'appelle Le Docteur Faustus. Et Le Docteur Faustus, c'est quoi? Le Docteur Faustus, c'est l'histoire de cette classe intellectuelle absolument brillante qui salue quoi? La néo-barbarie consciente. Alors, dans le nazisme.
Ce qu'il voudrait dire, c'est, et c'est, je crois que c'est le sens de votre propos dans ce livre, donc intitulé Crise, violence, décivilisation, c'est que le processus de décivilisation, c'est un processus interne à la civilisation. Ça ne vient pas de l'extérieur.
Non, il n'y a pas d'extérieur. Et je crois que là aussi, Freud est absolument remarquable. Ibn Khaldoun est également absolument remarquable. Et je pense qu'on peut relire, par exemple, Hobbes, mais tous ces penseurs aussi, la perspective de l'état de nature, hein, sur lequel travaille d'ailleurs aussi Agamben, n'est pas du tout quelque chose d'anachronique. Ça ne renvoie pas à la généalogie de la cité. C'est synchrone à la cité. Ça veut dire qu'il habite la cité comme l'un des scénarios de sa destruction future. Et cela ne signifie pas du tout qu'il y a un ennemi ou que la catastrophe viendra de l'extérieur. C'est absolument interne. Et c'est pour ça qu'Agamben, en réalisant Aristote, et après j'ai relu aussi Aristote dans cette perspective, il montre que lorsque la guerre civile commence, tout citoyen doit participer. Ceux qui ne participent pas sont considérés comme des lâches. Pourquoi tout citoyen doit participer? Puisqu'on n'est plus du tout dans la cité. On est déjà dans l'état de nature. Ça veut dire qu'on est dans la guerre de tous contre tous. Et ce n'est que ceux qui ont les mains sales peuvent sortir la cité.
Ça vous fait penser à notre situation présente, David Besarslan?
Et dans certaines parties du monde, oui. Heureusement, pas en France.
Pas en France.
Mais si je devais penser à la Libye, au Yémen ou à la Syrie, bon, éventuellement, je sortirais effectivement ces pistes ou une partie de l'Amérique latine aujourd'hui.
C'est ça. Alors, il y a aussi un trait qui est très frappant. La civilisation affaiblit les hommes. Elle les rapproche de l'art, elle les rapproche des plaisirs de l'existence, de la fascination pour le beau, et en même temps, elle les remplit d'effroi devant l'horreur, elle leur fait oublier la violence, ce qui est un reproche d'ailleurs que les Américains adressent régulièrement aux Européens, avec un mauvais usage du terme civilisation, hein. L'affrontement des civilisations, c'est un affrontement guerrier qui n'a rien à voir avec la civilisation. Est-ce que aujourd'hui, nous ne serions pas, amis de Besarslan, trop fragile?
On est trop fragile. On est très fragile, mais de toute façon, Ibn Khaldoun montrait déjà que l'homme civilisé était fragile parce que la société est fragile. Pourquoi l'homme civilisé ou la société civilisée est fragile? Ibn Khaldoun dit, on paye des impôts. L'impôt, c'est l'humiliation. On accepte de payer les impôts.
Oui, on subit des peines aussi.
On subit des peines.
La peine, c'est humiliant,
voilà.
pour
Ibn Khaldoun. Aller à l'école, pour Ibn Khaldoun, est humiliant. Avoir un maître est humiliant. Et en même temps, c'est la condition aussi pour que je puisse exister dans la société en tant que citoyenne. Et surtout pour que je puisse avoir confiance. Ça veut dire qu'effectivement, je peux sortir de chez moi, aller enseigner ou travailler ou aller au cinéma et revenir à la maison en toute confiance. Donc, la fragilité. Et Chateaubriand disait qu'avec la civilisation, on devenait de plus en plus mélancolique. Et il expliquait, je le cite de mémoire, on devient désabusé de tout sans avoir abusé de rien du tout. Et effectivement, on a l'impression qu'on sait tout désormais dans la civilisation, mais comme si ces expériences constructrices de soi, de sujet, etc. disparaissaient. Voilà, c'est aussi ça la civilisation. La civilisation, c'est la normalisation de l'être. On n'est plus ni dans les sous-hommes, ni dans les sur-hommes. On est dans l'être normal, le citoyen normal, le citoyen lambda. حکیمی گرو گدن تو نمیری نه حکیمی لبالا دلیم عبدالا خودی داد دوی کتابیان بهاری مهان گلانی نیسان و داری لسر سنگ برم عبدالا خودی داند خرج ند باری احمد لای لا لا
Thank you. besnaya, kuru gedena ve besnaya, litli biçemne armuri ve şmaya, lisingu berim avdala, kudiştera kuşku sera uçmaya, liberi karane fezi fuserda kirkemni, hamdi kuştera desturdaya, ahmed ala, la la la.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Hamid Bezarslan, pour étudier, travailler cette hypothèse de la décivilisation. Hamid Bezarslan, qui a choisi de nous faire entendre cet air, Armedo, interprété ici par Nizam Edin Haric. Hamid Bezarslan, pourquoi cette chanson d'Armedo?
C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une élégie. Voilà, ça traduit un peu une sorte de mélancolie kurdo-arménienne, puisque effectivement c'est une chanson kurde mais de Caucase, est considérée comme une chanson kurde d'Erevan. Donc voilà, effectivement c'est une chanson qui me touche beaucoup, et d'autant plus qu'il y a effectivement une culture, disons, une mélodique extrêmement particulière dans cette région.
Bien sûr, et puis une nostalgie qui vient de cette, on a l'impression dans le Moyen Orient, d'un rapport à leur civilisation, à leur moment de civilisation, infiniment plus problématique. À un moment où on parle de déseuropéanisation du monde, eux, on a l'impression, cette nostalgie traduit un éloignement de ce grand moment de la civilisation.
Absolument, c'était la question qui s'est posée l'islam depuis le début et qui n'a jamais pu résoudre, y compris au moment de l'expansion impériale. L'islam a profondément regretté l'époque du prophète, et puis par la suite, effectivement, quand vous lisez Ibn Khaldoun, il parle de la destruction de la Syrie, de Yémen, de Liban, de la Libye, on a l'impression qu'Ibn Khaldoun parle de notre temps alors qu'il écrivait effectivement, voilà, il y a plus de six siècles. Par la suite, effectivement, on voit cette fragmentation du monde arabe, cette transformation d'espace arabe en espace de conflits interimpériaux, l'occidentalisation. Donc la question qui se pose aujourd'hui encore dans le monde musulman, c'est de quoi est fait notre temps? Est-ce que notre temps post-prophétique n'est qu'une longue période de corruption? Si c'est la période de corruption, comment retourner au temps ancien? Si on retourne au temps ancien, comment le faire sans une violence extrême? Et est-ce que cette violence extrême ne deviendra finalement pas une violence de destruction de soi, supprimer son propre temps pour revenir aux origines? Mais quelle origine? Donc je crois que de ce point de vue-là, effectivement, cet espace est quand même assez problématique.
Alors, ça nous introduit dans cette question absolument essentielle. Vous avez, venez de le dire, Hamid Bezarslan, qui est celle du temps. Je le disais en commençant, aujourd'hui, ce qui caractérise notre modernité occidentale, on peut dire globale, c'est cet effondrement d'une projection possible dans l'histoire. Finalement, la grande différence, si je vous ai bien lu, entre la civilisation des Lumières occidentales et européennes et la civilisation arabe, celle dont parlait Ibn Khaldoun, c'est que pour Ibn Khaldoun, la civilisation est cyclique, donc il étudie comment elle se construit et comment elle se détruit, ce qui est particulièrement inquiétant d'ailleurs pour nous, alors que nous nous sommes pensés, nous, ici, en Occident, dans une perspective linéaire. Mais qui dit linéaire, dit du temps, dit peut-être une eschatologie, d'abord religieuse, puis politique, puis qui disparaît totalement. Est-ce que nous ne serions pas, Hamid Bezarslan, en panne de temps? Est-ce que c'est pas cette non pas cette fuite, mais cette dissolution du temps qui nous préoccupe aujourd'hui?
Je pense qu'Ibn Khaldoun montrait déjà que dans certains cas, le redémarrage civilisationnel n'était pas possible. Au bout de plusieurs siècles, pour Ibn Khaldoun, la terre pouvait devenir beaucoup trop stérile pour qu'on puisse avoir une régénération civilisationnelle. Et pour lui, dans ce cas-là, on vivrait dans une période post-civilisationnel.
C'est très très sombre pour notre temps.
C'est extrêmement sombre. Extrêmement sombre. Et pour revenir un peu à votre question, oui, vous avez tout à fait raison. On a l'impression que pour le moment, en tout cas, on vit un âge post-politique. Mais un âge post-politique n'est pas du tout nécessairement un âge pré-politique qui permettrait un redémarrage de politique qui permettrait de réinventer le temps. Oui. Cela étant dit, n'oublions pas quand même qu'il y a eu aussi des périodes extrêmement sombres dans l'histoire. C'est pour ça que je pense que ce livre, c'est aussi une invitation à prendre en considération le temps long. Michelet, parlant de la Révolution française, en disant « le temps n'existait plus, le temps avait péri ». Quand vous lisez Simone Veil et sa lecture, par exemple, des tragédies grecques, notamment l'Iliade, vous verrez très clairement que pour elle, effectivement, le problème, c'était que le temps avait totalement disparu, que l'action l'emportait de très, très, très loin sur toute projection dans l'avenir, d'autant plus que la projection dans l'avenir signifie inévitablement la relecture du passé. Oui. Hannah Arendt, dans sa théorie, voilà, du pouvoir, mais aussi du totalitarisme, c'est qu'il la frappe, parmi les traits qu'il a, la frappe absolument, c'est les régimes de mouvement, les régimes qui désormais n'ont plus aucun moment d'arrêt, qui ne peuvent pas s'arrêter et qui, par le mouvement et dans le mouvement, se reproduisent, mais en se reproduisant, se détruisent.
Mais alors, Hamid Bezarslan, on manque de temps, il y a deux manières de comprendre. Soit le temps a disparu, soit, et c'est une hypothèse que je voudrais vous soumettre, peut-être que nous nous trouvons dans un temps fondateur. On sait bien que dans l'histoire, il y a tout le temps n'a pas la même valeur, il y a des moments de durée, des moments de consolidation, et puis il y a des moments de fondation. Et les changements civilisationnels auxquels nous assistons, je pense au numérique bien sûr, je pense à la mondialisation, je pense au coronavirus, c'est-à-dire à cette chose absolument bouleversante que nous vivons successivement et rapidement, font que nous sommes dans un temps zéro en quelque sorte, qui ne serait pas une suppression du temps, qui serait un temps véritablement fondateur et qui nous appelle à continuer cette fondation.
Un temps nouveau, sans doute, oui. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment pas oublier que du moment où on n'est pas dans la violence, du moment où la violence n'habite pas la cité, on est en face d'une pluralité d'options. Le temps institutionnel existe. D'un côté, on a effectivement une accélération aujourd'hui en Europe, et de l'autre côté, n'oublions pas que plus les trains s'accélèrent, plus les institutions gérant les trains sont dans un temps lent. Aujourd'hui, on construit le métro de 2035-2040 à Paris, alors qu'on l'est en 2020. Oui. Vous voyez, il y a cet rééquilibrage du temps. Ça veut dire qu'effectivement, le temps peut s'accélérer. Et de l'autre côté, il peut y avoir des institutions dont la charge est d'équilibrer le temps.
Mais c'est le rôle des institutions que de refroidir un peu la machine du temps et de réintroduire du temps. Et elles le font d'ailleurs, les institutions. C'est très intéressant, vous le notez à propos d'une fractionnisation d'Ibraloun, où à chaque fois, l'institution s'autorise d'un temps très très long.
Absolument.
D'un temps très très long, mais une affiliation historique. Tout ça veut dire qu'on a un sens partagé pour que ça tienne, pour avoir un peu de confiance.
On a un sens partagé, et ce sens partagé renvoie, comme j'ai dit, à la fois au passé, parce qu'il faudrait constamment réévaluer le passé. Le passé ne passe jamais, non pas dans le sens qu'on entendait, mais parce que le passé apporte des ressources, y compris en termes de traumatisme, mais le passé, voilà, c'est l'expérience, c'est la capacité de se remettre en cause, la capacité de penser l'altérité, les altérités et la projection de soi. Et ce temps de refondation, effectivement, aujourd'hui on est en 2020, mais quel sera le récit qui nous livrera un historien en 2050, un historien qui, disons, aujourd'hui aurait 20 ans, et il se peut effectivement qu'il dise à partir des années 1990 et jusqu'à 2020-2030, l'Europe ou l'humanité ont connu une réelle refondation, une refondation qui, au début, les a absolument inquiétés, mais qu'ils ont fini par domestiquer, qu'ils ont fini se baser, se construire sur des repères nouveaux qui n'existaient pas au 19e siècle. Et c'est là aussi, c'est très intéressant de lire les auteurs du 19e siècle. Pour eux, le temps est devenu quelque chose d'absolument incontrôlable. Que ça soit de Musset jusqu'à Marx, quand on lit les auteurs du 19e siècle, on est impressionné. Chateaubriand, on l'a mentionné, Chateaubriand dit: mais enfin, l'histoire ancienne frappait à ma porte. J'ai dit, attendez, j'arrive vous ouvrir la porte. Et le temps que j'ouvre la porte, l'histoire emportait trois rois.
C'est ça, oui. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir de lire cette citation que vous rapportez, Chateaubriand. Qui lirait mes quatre gros volumes lorsqu'on a bien de la peine à lire le feuilleton d'une gazette? J'écrivais l'histoire ancienne et l'histoire moderne frappait à ma porte. En vain, je lui criais, attendez, je vais à vous. Elle passait au bruit du canon en emportant trois générations de rois.
Voilà.
C'est formidable.
C'est formidable, ou Sainte-Beuve disant qu'effectivement, voilà, librairie se meurt. Quand cette meuf dit, dans les années 1830, l'industrie habite désormais nos rêves, elle les transforme, et finit sa phrase en disant par un cri, la librairie se meurt. On a l'impression d'être dans les années 2030, 2020, 2030. Hein. Et donc, il se peut qu'effectivement, un historien qui aujourd'hui n'a que 5-6 ans, qui commence tout juste l'école, en 2040, 2050, aurait une vision des choses, de notre expérience, très différente.
Alors, le ciel vous entende, Hamid Bozarslan, sur cette refondation, mais vous avez dit au détour d'une phrase, quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents, vous dites « à condition que la violence ne l'emporte pas ». À condition que la violence ne l'emporte pas. Ce qui montre bien que ce qui caractérise notre époque, du fait d'ailleurs de cette réouverture de beaucoup de ces archives tout d'un coup, eh bien c'est une sorte de course de vitesse entre la violence et le désir de refonder ensemble une cité.
Absolument, absolument, parce que je pars de principe que la cité, en tout cas la cité démocratique, ne peut pas se permettre de devenir le théâtre de la violence. La cité démocratique est le fruit de la violence. Mais ce n'est pas parce qu'on est le fruit de la violence...
Et de son oubli.
Mais ce n'est pas parce que nous sommes le fruit de la violence qu'on peut recommencer l'expérience de la violence pour transformer la cité. La cité démocratique doit se transformer par ses propres conflits, par son dissensus, par sa capacité de construire aussi le consensus. La conflictualité est absolument centrale. L'indéterminé démocratique de Claude Lefort est absolument centrale pour pouvoir imaginer la cité démocratique. Mais tout ceci exige que la violence soit écartée de nos manières d'être et de notre horizon.
Est-ce qu'aujourd'hui, Hamid Bozarslan, n'avez-vous pas l'impression que certains sont tentés par la violence ? Certains sont tentés par une colère qui n'arriverait à embrayer sous aucune revendication concrète, sous aucun compromis. Est-ce que nos sociétés ne sont pas... Est-ce qu'elles sont en train de vivre des conflits qui peuvent la réunir un jour ou des violences qui peuvent la désunir un jour?
La tentation de violence est là. C'est pour ça que j'ai consacré quelques pages au comité invisible. Comité invisible qui est invisible, mais qui est un comité extrêmement radical de gauche qui veut remettre en cause ou détruire non seulement l'État, mais aussi le système en tant que tel. Et le comité invisible, quand vous lisez en détail ce qu'il dit, il faudrait procéder à un rachat des péchés. De l'homme occidental. L'homme blanc occidental a péché. Donc, il faudrait retourner à l'innocence perdue d'avant le péché. Je pense que ce qui est extrêmement important de saisir, c'est que la tentation de la violence est là, sauf que quand on a recours à la violence, il ne s'agit pas uniquement de changer l'ordre politique, de promouvoir une catégorie, de changer les structures de pouvoir. In fine, on rentre aussi à la question de la société. La destruction de la société s'impose. La question de l'eschatologie, ça veut dire la délivrance ultime qui ne pourrait venir que par le rachat. Le rachat étant lié aussi à une violence extrême. Toutes ces perspectives sont des perspectives extrêmement qui font peur, oui, bien sûr.
Très inquiétante, Hamid Bozarslan, mais je suis frappé de ce retour aujourd'hui du vocabulaire moral extrêmement quasi saturé. Le rachat, la faute,
Le péché,
le tribunal suprême. Alors, est-ce que nous ne sommes pas arrivés au bout d'une période où nous avons trop regardé notre passé, ou pas trop, nous avons regardé notre passé d'un point de vue moral, je pense sur la colonisation, je pense sur les horreurs de la guerre, la Shoah, etc. Et est-ce qu'il ne faut pas être capable aussi de les dépasser pour construire, pour se reprojeter de nouveau dans l'avenir? En d'autres termes, Hamid Bozarslan, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser un peu ces débats sur le XXe siècle, sur le mal blanc, pour essayer de reconstruire une cité juste?
De toutes les manières, je pense qu'il faudrait avoir à l'esprit que depuis le XIXe siècle, on est dans une civilisation intégrée à travers le monde. Et cela signifie effectivement que si on juge notre histoire, il faudrait le juger à partir de l'histoire universelle, dans toute sa complexité, ce qui ne justifierait pas ou relativiserait absolument pas le colonialisme. Si je devais vous parler de l'histoire interne du monde musulman, ça ne sera pas une histoire très brillante. Et le génocide des Arméniens, ça n'a pas été perpétré par une puissance occidentale, où c'était l'Allemagne qui a soutenu indirectement une puissance musulmane. Donc je pense qu'en Asie aussi, quand vous regardez l'histoire de la deuxième guerre, l'histoire de la colonisation, c'était pas l'impérialisme européen qui a colonisé nécessairement l'Asie, mais c'était aussi le Japon. Donc voilà, jugeons le 19e et le 20e siècle, jugeons même bien avant, mais juger l'histoire ne signifie pas du tout qu'il faudrait qu'on en devienne des comptables aujourd'hui.
Comptabilité impossible.
D'une comptabilité impossible. Voilà, je pense qu'effectivement, il faudrait juger l'histoire, mais il faudrait juger l'histoire précisément pour acquitter le présent.
Oui, exactement.
Acquitter le présent et c'est lui ça. Permettre d'autres horizons. Mmh. Si on devait porter la culpabilité du passé, d'une, cela signifierait effectivement qu'on ne sera jamais dans la cité démocratique.
On sera jamais quitte.
On ne sera jamais quitte, mais on sera jamais dans la cité non plus, parce qu'on sera toujours dans une perspective de faute, de péché et de délivrance.
Alors,
la tentative de délivrance exige de nouveau la violence. Or, si on dit qu'effectivement, nos sociétés ont été basées sur Ibn Khaldoun ou Max Weber, à la base de la cité, il y a la violence.
C'est
une chose entendue, détestable au point, mais après ce qu'on appelle la civilisation, ce qu'on appelle la société, ce qu'on appelle la cité démocratique, c'est l'institutionnalisation. Mmh. C'est la capacité effectivement de se tendre un miroir critique dans le présent. Mmh. C'est la capacité d'élargir les droits, penser la question des droits dans la cité, créer l'irréversible démocratique.
C'est ça. Mais alors, Hamid Bezarslan, justement, on a parlé du temps. Très intéressant, on vient de parler du passé. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, il faut aussi repenser l'espace ? Et j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous terminez votre livre, c'est-à-dire reconstruire une cité, c'est reconstruire non pas des frontières, la muraille de Chine, c'est de reconstruire ce que d'ailleurs Anna Arendt appelait le nomos. Le nomos, c'est à la fois la règle et la frontière. En d'autres termes, c'est la règle qui fait frontière. C'est-à-dire, c'est la règle partagée par tous, acceptée par tous, entretenu par tous, investi par tous, par des rituels, par des croyances, et c'est comme ça qu'on bâtit une cité démocratique.
Oui, le livre transforme un cri en un appel. Donc effectivement, le livre peut paraître comme pessimiste, mais la conclusion est plutôt optimiste. Et la conclusion, c'est une triple invitation. Une première invitation, à prendre en considération la complexité du monde, ne pas simplifier le monde par notre chiliasme, par notre volonté de...
Qu'est-ce que vous entendez par chiliasme?
Chiliasme, c'est que la volonté doit tout déterminer.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Le chiliasme étant par selon Mannheim le kairos, dieu de l'opportunité, doit défaire, prendre sa revanche sur Chronos, dieu du temps, instituer l'histoire. Donc prendre en considération la notion de la complexité. Un deuxième élément, la notion de responsabilité. Hannah Arendt explique, mais Kant est le premier, qu'il y a un rapport intrinsèque entre la liberté et la responsabilité. On devient adulte, ça veut dire majeur, ça veut dire citoyenne, à condition que la notion de responsabilité soit parfaitement acceptée.
Responsabilité pour l'avenir.
La responsabilité par rapport au présent, mais aussi à l'avenir, par rapport à l'autre, par rapport à l'altérité, par rapport à soi. Et on sait qu'au XXe siècle, très peu d'hommes politiques ont accepté leur responsabilité. On a toujours accusé la roue de la fortune comme finalement le responsable. Et puis le troisième point, vous avez tout à fait raison, Antoine Garapon, répondre la question de nomos, la question des règles. Sachant qu'effectivement, ces règles ne sont pas données une fois pour toutes, que la question du droit le montre. Le droit, c'est quelque chose d'évolutif. Il faut un état de droit, mais un état de droit lui-même se transforme constamment. Les règles sont effectivement des règles à partager, puisque si on dit que la cité démocratique est le lieu par excellence de dissensus, pour que ce dissensus ne puisse pas devenir destructeur, il faudrait aussi qu'il y ait le consensus, c'est-à-dire des règles qui unifient. La cité démocratique, c'est à la fois la division et l'union en même temps. C'est le consensus et le dissensus en même temps. C'est le dissensus qui produit la démocratie, mais c'est le consensus qui protège la démocratie.
Eh bien, on restera sur ces propos constructifs. Merci beaucoup, Hamid Bezarslan.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Matière à penser, Hamid Bezarslan, Marie Le Peintre, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Julie Boincher, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et moi, je vous dis à bientôt.